14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Notre fille a été tuée de la façon que vous savez. Il s'est passé quelque chose. C'est pas juste la faute à pas de chance. Dites-moi, est-ce que quiconque peut croire que c'est la faute à pas de chance? On ne cherche pas à savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques, mais on veut savoir ce qui s'est passé, oui.
Bonjour, c'était il y a exactement 10 ans, le 16 novembre 2011. Agnès Marin, collégienne de 13 ans, était violée, frappée, poignardée, brûlée par Mathieu, 17 ans, un autre élève qui fréquentait le même établissement au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. La France entière va alors apprendre, éberluée, que ce crime barbare aurait sans doute être pu éviter. Malgré sa jeunesse, Mathieu avait déjà été arrêté pour un viol au contour identique, emprisonné et très rapidement relâché. Le psychiatre qui l'avait examiné l'avait jugé alors inoffensif. L'affaire Agnès Marin va ainsi devenir le scandale Agnès Marin. Pourquoi le risque de récidive n'a-t-il pas été détecté à l'époque par le psychiatre qui s'occupait de Mathieu? Pourquoi le suivi judiciaire n'a-t-il pas été plus strict? La direction du collège d'Agnès connaissait-elle le lourd passé de cet adolescent difficile? Après l'assassinat, Mathieu sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, fait rarissime pour un mineur. Reste un terrible sentiment d'échec. Pourquoi autant d'erreurs? Question que nous allons poser à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort d'Agnès Marin à l'automne 2011, cette adolescente de 13 ans est signalée absente du collège où elle est interne. Une disparition qui va cacher un terrifiant assassinat. Ce mercredi 16 novembre 2011, Agnès Marin, interne au collège Sévenol du Chambon-sur-Lignon, à une quarantaine de kilomètres du Puy-en-Velay, est signalée absente à l'étude de l'après-midi. Les pensionnaires de cet établissement ont eu une journée libre, mais Agnès, élève de 3e, n'est pas rentrée. La direction ne s'inquiète pas outre mesure. Il arrive qu'au Sévenol, collège sans mur d'enceinte et où la surveillance est loin d'être rigide, il arrive que certains pensionnaires s'octroient quelques heures de liberté supplémentaires. Agnès Marin, une Parisienne, est arrivée au début de l'année. Elle a du caractère, mais n'est pas forcément une fille difficile. Ses parents l'ont placée à l'internat pour lui éviter les mauvaises fréquentations qui, dans la capitale, avaient gâché sa scolarité. À l'annonce de la disparition, certains de ses camarades sont immédiatement partis à sa recherche, arpentant les 15 hectares qui entourent le collège. Pas d'Agnès dans le coin. Personne non plus ne l'a aperçue au Play, un café, rendez-vous de la jeunesse locale. L'alerte est donnée à 20h30. Dans la nuit, les gendarmes entreprennent un premier ratissage des lieux. Jeudi 17 novembre, lendemain de la disparition, la gendarmerie lance un avis de recherche pour tenter de retrouver Agnès Marin. 1m65, cheveux longs et châtains. Ses parents, Frédéric et Paola Marin, sont arrivés de Paris.
On est fou d'inquiétude, mais on doit espérer. Elle est quelque part, elle ne s'est pas volatilisée. Elle n'a pas disparu dans la nature. Elle est quelque part, seule ou avec quelqu'un. Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a besoin de retrouver sa trace. On est mortifié, mais on veut croire. On doit croire.
La mère de la disparue ajoute: Agnès est quelquefois un peu rebelle, elle part quelque temps chez des copines, mais à chaque fois, elle nous prévient. Une équipe d'enquêteurs procède à de nombreuses auditions parmi les élèves, les responsables de l'encadrement et la direction du Sévenol. Difficile d'établir l'emploi du temps de la disparue, le mercredi, et même de savoir comment celle-ci était habillée, chacun semble avoir son avis. La collégienne n'a pas pris son manteau, elle serait partie pour aller faire une course au village, pour les uns, pour un rendez-vous, selon les autres. Sur le terrain, les 150 gendarmes rentrent bredouille, alors qu'au collège, leurs collègues s'intéressent à un pensionnaire. Mathieu M., 17 ans, élève en première STG, sciences et technologies, originaire du Gard, lui aussi interne. Il se serait disputé avec Agnès Marin, il porte des traces de griffures sur le visage, il est déjà connu de la justice, il est placé en garde à vue. Vendredi 18 novembre, Mathieu M. avoue avoir tué Agnès Marin. Il explique avoir emprunté avec elle, mercredi dans la matinée, un chemin caillouteux et boueux en direction d'une forêt avoisinante. Il a dit à la jeune fille qu'il avait trouvé à cet endroit des champignons hallucinogènes. Ils ont longé une voie ferrée, parcouru 3 km environ. Guidés par Mathieu, les gendarmes ne découvrent qu'à la nuit tombée cet endroit escarpé, cerné par un bois de conifères. Le corps de l'adolescente est là, en grande partie calciné. Elle a été bâillonnée, violée, après avoir été attachée à un arbre avec des cordelettes en nylon. L'autopsie dénombre 17 plaies à l'arme blanche, un couteau. Mathieu précisera plus tard avoir embraser le corps avec de l'essence à briquet. Il indiquera également « J'ai eu la petite voix dans ma tête. J'ai pris du plaisir sur le coup. Pour moi, elle n'existait plus. Je ne pensais pas à elle. » Des propos glaçants et un détachement étonnant pour cet adolescent. On va voir dans le chapitre suivant que le profil de Mathieu est pour le moins sombre et ce n'est pas la première fois qu'il s'attaque à une jeune fille. Tout le monde, enquêteurs, juges, famille de la victime, vont le découvrir dans les heures qui suivent effectivement cette interpellation. Pour l'instant, on reste sur cette scène de crime et on a en ligne avec nous Frédéric Perruche. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste à RTL, correspondant à Lyon et dans cette grande région. Vous avez suivi toute l'affaire, vous la connaissez parfaitement. En quelques mots, Frédéric, qui est Agnès Marin ?
C'est une jeune fille qui découvre cette région de Haute-Loire puisqu'elle était sur Paris, je crois que vous l'avez dit en préambule. Elle avait quelques problèmes scolaires, quelques problèmes de comportement, de connaissances. Et ses parents ont alors décidé de l'envoyer en Haute-Loire dans ce collège-lycée Sévenol qui est un endroit très particulier. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est un lycée qui est dans la nature. C'est un lycée ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de barrière. Et c'est surtout un internat où les garçons et les filles se côtoient.
Alors, il y a une soixantaine d'élèves dans ce collège Sévenol. On en parle tout de suite, si vous voulez bien, Frédéric. C'est un collège pour élèves difficiles, on peut le dire comme ça ?
Il y a un peu de tout. Il y a à la fois des enfants difficiles, des adolescents difficiles, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Au départ, c'est un lycée protestant, c'est-à-dire qu'on veut faire une éducation différente, on veut remettre sur le droit chemin ceux qui se sont égarés. Mais ce ne sont pas que des adolescents difficiles. Il y a un peu de tout. Ça coûte très cher, il faut le dire aussi, d'aller au collège Sévenol, quand on peut payer ses 12 à 14 000 euros l'année.
Ah, quand même.
C'est très élevé quand on est interne, bien sûr. Donc, il y a à la fois des gens qui ont de l'argent, d'autres qui en ont moins. L'idée, c'est un brassage et d'éduquer un petit peu autrement les enfants avec dans cet univers vraiment de liberté en pleine forêt. C'est assez saisissant, il y a 3000 habitants environ au Chambon-sur-Lignon où il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est étudier et aller se promener en forêt.
Et aller se promener en forêt, oui, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que effectivement ce collège, on ne peut pas dire que la discipline, ça règne en maître, hein, malgré peut-être son image protestante qui l'a formé et qui l'a façonné. On ne peut pas dire que là, ça
non.
soit vraiment très rigide.
C'est pas très rigide, c'est d'autant moins rigide qu'ils ont d'immenses problèmes financiers. C'est une des clés de cette affaire. Il y a des problèmes financiers, donc il y a un personnel pas vraiment
adapté.
Nombreux, adaptés, et du coup les gamins font beaucoup ce qu'ils veulent, et les gendarmes du coin les connaissent bien, parce que comme il n'y a pas grand chose à faire, et ben malheureusement on fait des bêtises, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, etc.
Et on n'est peut-être pas très regardant non plus du côté de la direction sur les élèves qu'on peut accueillir finalement, puisqu'on a besoin de finances, il faut faire tourner cet immense établissement.
Exactement, c'est aussi une des clés de cette effroyable affaire, c'est que à ce moment-là, le collège-lycée qui a fermé depuis va très mal. On est en 2011 et ils ont besoin clairement de clients, c'est-à-dire d'étudiants, de lycéens, de collégiens. Et donc quand Mathieu arrive, c'est vrai qu'ils ne sont pas très regardants sur son passé. Ses parents vont dire qu'ils peuvent payer les 12 000 euros d'inscription. Et donc il va rentrer dans ce collège sans beaucoup de questions sur son passé, alors qu'il sort quand même de 4 mois de détention provisoire.
Exactement, et sans beaucoup de contrôle donc. Bonjour René Pagis.
Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime sur RTL. Vous êtes l'ancien procureur du Puy-en-Velay. Vous avez connu donc le début de cette affaire, le début effrayant de cette affaire. Vous êtes aussi l'auteur, je le signale, du livre « Dans la salle des pas perdus » qui est paru aux éditions de Boré. Monsieur le procureur, monsieur Pagis, comment les gendarmes identifient, en viennent à Mathieu ?
Oui, dans un premier temps, il est établi que Mathieu, qui participe d'ailleurs aux premières recherches, curieusement, a été vu par un camarade sortant seul du bois. avec une écharpe contre son visage. D'autres camarades ont vu qu'il avait le visage lacéré par des griffures. Il a donc été repéré par les gendarmes, placé en garde à vue et entendu tout particulièrement. Et c'est dans le cadre de cette garde à vue, avec son identité, que l'on sait assez rapidement, grâce d'abord à l'informatique, nous savons que Mathieu a déjà fait l'objet, un an avant, d'une garde à vue pour un viol qui s'est produit dans le Gard.
Alors effectivement, ce viol, monsieur le procureur, on va en reparler, si vous voulez bien, dans le chapitre suivant. Restons-en à cette scène de crime. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette scène de crime, monsieur Pagis ?
C'est une horreur absolue. Alors, nous sommes en plein bois, à proximité de cet endroit-là, une petite clairière, un arbre, des restes de liens qui sont à demi calcinés, des morceaux de bois à demi calcinés, et un tout petit peu de corps, un tout petit peu, une partie où on distingue la peau, mais une infime partie du corps. C'est un moment absolument horrible, hein, je vous assure, ça marque même un professionnel, même quelqu'un qui a 40 ans de vie dans le judiciaire. Voilà, on reste auprès de cela, figé. On a du mal à le regarder, puis finalement, bon, ben voilà, la levée du corps a lieu par le laboratoire, les techniciens du laboratoire de Rosny-sous-Bois.
De toute évidence, monsieur le procureur, le scénario du crime, il était préparé à l'avance.
On peut penser qu'à partir du moment où il essaye de l'entraîner dans le bois pour, disait-il, retrouver des champignons hallucinogènes, c'est qu'il avait de mauvaises idées derrière la tête. Avait-il seulement l'intention de la violer ? Il s'avère qu'il a reconnu l'avoir attachée, l'avoir violée, l'avoir achevée à de 17 coups de couteau, une horreur, puis ensuite d'avoir fait brûler son corps. Je crois qu'on peut répondre oui à votre question.
Le profil de Mathieu M. va se préciser. Il était effectivement connu de la justice. Il avait récemment violé une adolescente de la même façon qu'Agnès. La question ne va cesser de hanter la famille de la victime. La place de ce jeune homme était-elle dans ce collège ? 15 mois avant l'assassinat d'Agnès, dimanche 1er août 2010, Mathieu M. est passé une première fois à l'acte. Un premier viol avec armes, séquestration et préméditation alors qu'il n'a alors que 15 ans. Ce jour-là, près de son village de Nage et Solorgue, dans le Gard, l'adolescent attire à lui Julie, 15 ans, une ex-camarade de primaire. Il attache ses poignets à un arbre avec des lacets, la baïonne et la viole notamment avec un godemiché. Mathieu M. confessera que son intention était de la tuer. Julie est finalement libérée. « On oublie tout et on reste potes comme avant », dit-il à sa victime qui ne va pas l'écouter et va se confier à ses parents. L'adolescent est arrêté, il avoue, dans l'attente de son procès, il est placé dans un centre de détention pour mineurs. Malgré la gravité de son acte, il en sort 3 mois plus tard. L'expert pédopsychiatre près la cour d'appel de Montpellier le considère comme inoffensif. Il considère dans son rapport que l'auteur, je cite, « n'a pas de trouble à dimension perverse, n'est pas dangereux, n'a pas de trait à dimension délinquante. Supprimer les jeux vidéo et le cannabis et tout ira bien », indique même le psychiatre aux parents de Mathieu. 26 novembre 2010, Mathieu quitte le centre de détention tout en restant mis en examen pour viol. On sait de lui que c'est un adolescent introverti qui a longtemps rêvé d'être militaire, qui fume trop de cigarettes et s'essaie aux drogues les plus diverses. Il décline encore une admiration pour le personnage d'Alex dans le film Orange Mécanique, un psychopathe ultra-violent qui ne laisse jamais transparaître la moindre émotion. Tout petit, Mathieu avait été diagnostiqué dyslexique, dyspraxique et dysorthographique. Mais aucune pathologie mentale grave ou durable n'avait été décelée. Après le viol, les parents ont remué ciel et terre pour trouver un établissement scolaire pouvant accueillir leur fils. 17 collèges contactés, refus en chaîne. Dans leur lettre de candidature, les parents indiquent que leur fils a fait un séjour en prison sans dire précisément pourquoi. Des événements graves et pour nous stupéfiants l'ont amené à être mis en examen dans une affaire pénale, est-il mentionné. Le collège Cévenol est le seul à répondre favorablement. Au collège, le père de Mathieu rencontre le directeur, Philippe Bowens, qui se démène pour faire vivre une institution en perte de vitesse. Celle-ci ne compte qu'une soixantaine d'élèves pour 200 places et les finances en ressentent. Tout nouveau candidat semble alors le bienvenu. Lors d'une confrontation qui sera organisée lors de l'enquête, le père de Mathieu affirmera avoir indiqué au directeur les raisons qui avaient valu à son fils un séjour carcéral, tout en précisant « Je n'ai pas employé les termes de viol, mais d'agression sexuelle. Il fallait que je sorte mon fils de là, moi, je ne suis pas psychiatre », ajoutera le papa. Pour le directeur, la justice remettait en liberté ce jeune homme, il ne représentait donc pas de danger. Fin novembre 2010, Mathieu rejoint le Cévenol en classe de première, STG. Et voilà donc le premier maillon d'une chaîne de silence, de mauvais jugements et de démissions qui vont conduire au pire et à la mort d'Agnès. On va voir que même lors de sa courte scolarité avant l'assassinat, Mathieu va attirer l'attention dans ce collège. On va y parler. On va en parler dans cette heure du crime. Alors dans l'ordre, il y a ce viol, bien sûr, précédent, et ce feu vert qui est surprenant avec le recul donné par le pédopsychiatre Frédéric Perruche. C'est vraiment une nouvelle effarante lorsqu'on apprend cela, que ce jeune homme a été libéré après un acte aussi grave.
Oui, je me souviens très bien des gendarmes qui enquêtaient à ce moment-là sur le crime d'Agnès quand ils ont appris le passé du jeune homme. Et c'est vrai que ça a fait froid dans le dos à tout le monde quand on a appris par la suite qu'effectivement il n'avait pas été condamné, mais il avait purgé un peu moins de quatre mois de détention provisoire pour ce viol, et qu'il avait quand même été admis un an après dans un collège lycée mixte et en internat, c'est-à-dire que voilà, il passait des soirées, même si les uns et les autres, garçons et filles, n'étaient pas dans les mêmes bâtiments, en tout cas pas aux mêmes étages, pas dans les mêmes chambres,
pas dans les mêmes dortoirs, bien
sûr.
Mais
ils se croisaient, croisaient en permanence, ils sortaient ensemble, etc., etc. Donc mettre ce gamin qui avait violé une de ses amies un an avant, qui était mineure, qui avait 15 ans, qu'il avait failli tuer, puisque elle n'a dû sa survie qu'à un coup de fil de sa maman, le téléphone,
la première victime,
absolument. Et c'est comme ça qu'il a été déstabilisé et que sans doute il n'a pas poursuivi, qu'il n'a pas tué la jeune adolescente.
Le fait est, c'est que le secret le plus total entoure ce passé. Hein, personne n'est au courant.
Non, puisque ce que disent les parents, c'est qu'ils ont évoqué une agression sexuelle pour expliquer les quelques mois de détention provisoire. Pas de viol, et visiblement la direction du lycée n'a pas cherché à en savoir plus. Quand on fait quasiment 4 mois de prison en détention provisoire quand on est mineur, c'est grave, c'est pas simplement un problème de stupéfiants, de revente de hashish, etc. On est dans quelque chose de lourd et la direction n'a pas cherché à savoir clairement.
Alors il y a une chape de silence qui est effectivement retombée sur cette l'admission de cet élève un peu particulier. Bonjour maître Francis Piner.
Bonjour monsieur Richard.
Merci vous aussi d'être dans l'heure du crime aujourd'hui. Vous avez été l'avocat de la famille d'Agnès Marin. Il y a ce premier viol dont on vient de parler, commis par Mathieu, qui aurait dû attirer l'attention du juge et des psychiatres.
Là, le premier viol, il faut bien voir ce que c'est. C'est-à-dire que la veille, il se rend dans la garrigue, il pose des liens, ensuite il amène la gamine. Il l'attache au lien qu'il a déjà préparé et il la viole avec le godemichet qu'il a volé à ses parents. Ce qui veut dire que c'est un viol pour faire mal, c'est un viol pour humilier. Et ce qui est fascinant, c'est que l'expert psychiatre ne voit rien de tout ça. Un juge qui a le sentiment qu'il y a une famille très présente et qui à ce moment-là fait la folie de l'envoyer dans un internat mixte ouvert. C'est ça la première faute de la justice, c'est de ne pas avoir compris que ce viol était un viol inquiétant et qu'il fallait prendre des mesures drastiques, et au lieu de ça, ça a été un laxisme terrifiant. Et
alors comment expliquer, maître Spinner, qu'il ait pu être admis dans ce collège ?
Alors pourquoi ? Il y a deux thèses. La première, c'est qui est la moins favorable au collège, c'est on manquait d'élèves et tout était bon à prendre pour faire rentrer un peu d'argent. La seconde, qui aurait été plus noble, c'est tout le monde a le droit à une deuxième chance.
Frédéric Perruche, évidemment, là, la justice est fondée uniquement sur le rapport psy. Il n'y a pas eu d'autres vérifications, ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'on l'a libéré très vite.
Oui, avant même que le rapport psychiatrique n'arrive au juge. Voilà, c'était simplement des paroles d'un expert psy qui a dit au juge, écoutez, ce jeune homme n'est pas bien dangereux. S'il arrête la drogue et l'alcool, tout ira bien. Il n'y a pas de problème, monsieur le juge, on y va. Je caricature à peine, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le juge a décidé de sa libération avant même d'avoir le rapport écrit de l'expert psychiatrique. Voilà, ça donne un peu une idée du niveau.
En gros, on peut résumer ça, c'est de l'aveuglement ou plutôt du laxisme, d'ailleurs, du laisser aller, c'est-à-dire qu'on tamponne une sortie et on fait pas attention.
On l'a considéré comme un vulgaire, encore une fois, des délinquants de stup, de choses comme ça, quelque chose. Voilà, c'est pas bien, mais c'est pas grave. On l'a pas pris pour ce qu'il était, c'est-à-dire un violeur et pire que ça.
Alors justement, René Pagis, ex-procureur, du Puy en Velay, et qui avait mené cette affaire, qui avait supervisé cette affaire tout au moins à son démarrage, on entend ce profil de Mathieu, M, c'est un profil pour le moins déroutant.
Oui, alors, j'ai rencontré Mathieu en garde à vue avec son avocat, avec l'accord de son avocat, qui m'a dit, venez avec moi, on va essayer de le convaincre de nous dire où se trouve Agnès. J'ai rencontré un jeune qui effectivement me semblait buté, fermé, qui avait du mal à s'exprimer, beaucoup de force de caractère, parce que nous avons longuement insisté pour essayer de le convaincre, nous avons une pension qu'il finirait par nous entendre, et cette espèce de mélange de dureté et d'esprit fermé le rendait quand même assez atypique, assez différent.
Mathieu M, collégien dont tout le monde, ou presque, ignore le passé criminel récent, intègre le Cévenol. Son attitude ne va pas passer inaperçue, mais sans toutefois attirer la curiosité des autorités qui ont pour charge le suivi de ce garçon qui va avoir bientôt 17 ans. Avril 2011, 5 mois après son entrée au collège du Chambon-sur-Lignon, Mathieu M fait la connaissance d'Agnès Marin, 4 ans de moins que lui. Une simple amitié entre l'adolescente, qui a du mal à accepter l'autorité mais évite de se faire remarquer à l'internat, et le collégien de seconde qui fait beaucoup parler de lui. Le 18 février 2011, il s'est fait attraper pour achat d'alcool et consommation dans l'établissement. À l'époque, il a déjà été convoqué pour un comportement jugé indécent. Il promenait sa petite amie, interne elle aussi, au bout d'une laisse en mimant une fellation. Le 19 mai, Mathieu est surpris à la bibliothèque alors qu'il tente de télécharger une vidéo à caractère pédopornographique. Son père vient plaider sa cause pour éviter qu'il ne soit renvoyé. Il va redoubler la classe de première avec cette promesse faite lors d'un tête-à-tête avec le directeur. « Je m'engage à changer radicalement mon comportement ». L'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, qui ne visite l'établissement qu'une fois par an, n'est apparemment pas informée de ces incidents. Elle rencontre le directeur et son adjoint une 15 minutes au mois de mars. La représentante fait confiance aux parents pour accompagner leur enfant. Les parents, eux, comptent sur l'établissement. Du coup, personne n'a véritablement l'œil sur Mathieu, un cas pourtant hautement sensible. Ce dernier a en tout et pour tout 2 rendez-vous au Puy-en-Velay avec une pédopsychiatre lituanienne qui ne parle que quelques mots de français. Il rencontre ensuite un psychothérapeute qui n'a en fait jamais obtenu son diplôme. C'est pourtant ce professionnel débutant qui adresse les attestations de suivi au juge. On s'en contente. La présence des parents du collégien est considérée comme suffisamment rassurante. On ne s'interroge plus sur la dangerosité potentielle d'un collégien quasiment livré à lui-même et à ses fantasmes meurtriers. Encore une fois, une chaîne de responsabilité défaillante, des yeux fermés partout, dans tous les acteurs de ce suivi judiciaire de ce garçon qui, en fait, qui a un suivi qui n'existe pas. René Pagis, ex-procureur du Puy-en-Velay, qui vous avez suivi cette affaire à ce début, cette chaîne d'abandon et de responsabilité ou de délégation de responsabilité, on l'appelle comme on veut, c'est ce qui explique le drame ?
Moi, je pense, en tout cas, pour avoir longuement œuvré dans cette institution, qu'elle manque singulièrement de moyens. Et là, voilà un cas précis. Si on organisait les expertises autour des affaires graves, criminelles, avec sur la base de services structurés, avec un nombre suffisant de psychiatres, avec la juge de Nîmes a eu des difficultés, elle a pris un psychiatre qui doit avoir une foultitude de dossiers à traiter, et voilà ce qui se produit, quoi. Voilà, on fait des choses souvent rapidement.
Alors oui, c'est sûrement, c'est le moins qu'on puisse dire, des choses faites rapidement. Maître Spinner, on entend le procureur, l'ex-procureur du Puy-en-Velay, c'est tout de même incroyable, les parents d'élèves et a fortiori ceux d'Agnès Marin ignoraient encore tout de cette situation.
Ils ignorent le passé de cet élève, ce que la direction du CEFDOL, qui dit qu'elle ne savait pas, qu'elle savait qu'il avait des problèmes avec la justice, mais qu'il ne savait pas de quelle nature ils étaient, ce qui est d'ailleurs contesté par le père de l'accusé, et de ce point de vue, je pense que le directeur du CEFDOL savait, mais évidemment, les parents n'ont jamais été informés de cela.
D'après vous, la thèse selon laquelle la direction du collège ignorait tout de la situation de Mathieu, parce que ça a été dit, ça a beaucoup, cette thèse, elle ne tient pas la route.
Je ne crois pas un seul instant à cette thèse. Je vais rappeler que cet homme était un éducateur. Bien. Et un éducateur, c'est spécialisé, j'entends. Et donc, il a quand même une connaissance des processus judiciaires et de la justice des mineurs. Un mineur de 16 ans qui est incarcéré n'est pas incarcéré pour des broutilles. En France, quand on vous met à 16 ans en prison, c'est que les faits sont graves et de nature criminelle. Et donc, il sait que le mineur est en prison, qu'il faut préparer la sortie de prison. Je vois mal quelqu'un dire « Ah, je suis éducateur, je sais qu'en général, on met en prison les mineurs de 16 ans pour des faits d'une particulière gravité, mais je ne pose aucune question. Tout ça n'est pas sérieux. »
Frédéric Perruche, en plus de cette complication dans cette chaîne de responsabilité défaillante, il y a le cas Mathieu. Il est plutôt habile, d'ailleurs, parce qu'il ment à la direction. Il dit « Moi, j'ai changé, c'est fini, vous n'entendrez plus parler de moi. »
Mathieu, il ment tout le temps. C'est bien le problème de Mathieu. Un des problèmes, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un gamin qui est violent, qui est... voilà. Mais il s'en sort toujours, Mathieu. C'est-à-dire qu'il est effectivement... c'est un gamin ordinaire. Moi, je l'ai vu une fois à l'audience, ou deux, puisque les audiences étaient à huis clos. C'est un gamin tout à fait ordinaire, avec ses petites lunettes dans son coin. Enfin, il n'a pas l'air d'être un gamin à problème, un gamin dangereux, un gamin violent. C'est sa grande force. C'est un manipulateur hors pair. Il a même réussi. Il a manipulé les psychiatres, il a manipulé son psychothérapeute. On l'a dit, le psychothérapeute. Thérapeute quand même, il parlait simplement, moi je l'ai vu à la barre aussi, ce monsieur, quand le président lui a demandé mais vous parliez de quoi il parlait de comment ça se passe ta journée, comment ça se passe avec tes camarades, comment ça se passe ton travail, t'as une petite copine, sinon tu manges bien, comment le psychothérapeute faisait parler
un garçon banal. Après 2 ans d'enquête, au cours desquels Mathieu M va raconter dans le détail l'assassinat d'Annie, le collégien va être traduit devant une cour d'assises. Il ne veut pas être le seul accusé. Procès qui va également être celui de la faillite des institutions. Le 18 juin 2013 à 9h, Mathieu M apparaît dans le box des accusés de la cour d'assises des mineurs de Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Un jeune homme mince, de petite taille, désormais âgé de 19 ans, costume sombre et lunettes, la tête rentrée dans les épaules. Il est jugé pour l'assassinat d'Agnès Marin, mais également pour un précédent viol, celui de Julie. La famille d'Agnès voulait un procès public. La seule chose qu'il leur reste, c'est ce qui est arrivé à leur fille puisse servir à d'autres, indique leur avocat. Mais le procès va finalement se tenir à huis clos, à la demande de la première victime, Julie, et des avocates de l'accusé. Hormis la cour, les avocats et les familles, personne ne va voir le visage d'un accusé qui, lors de l'instruction, indiquait « Je détruis tout autour de moi, je ne sais pas résister à mes pulsions ». 2 demi-journées de débat public consacrées aux responsabilités des uns et des autres jettent une lumière crue sur le fonctionnement bancal des institutions. Aucun signal d'alerte n'a été détecté ou voulu être détecté. Après le premier viol, celui de Julie, alors qu'on lui demandait s'il pouvait repasser à l'acte, Mathieu avait eu cette réponse « Je ne crois pas avoir le cran ». Enfin, le courage. Devant la cour, le malaise est palpable. Un psy qui assurait après le premier viol que Mathieu était inoffensif. Une juge qui n'attend pas le rapport pour le libérer.
une éducatrice qui manque de vigilance, etc., etc. Un florilège abject de dysfonctionnement et de lâcheté, s'emporte alors le père d'Agnès, Frédéric Marin. Jean-Louis Doma, ex-directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, concède qu'il n'y avait pas d'urgence à libérer Mathieu, reconnaît des faiblesses, mais pas de faute. Vendredi 18 juin, 21h, la cour condamne Mathieu M. à la perpétuité. Frédéric Perruche, vous étiez à ce procès, journaliste RTL, correspondant à Lyon. Vous avez suivi toute cette affaire. En quelques mots, on va le voir très très rapidement, Mathieu, puisque le procès est à huis clos. Quel souvenir avez-vous de cette vision, de cette image ?
En fait, peu de souvenirs de lui, en tout cas de Mathieu, puisque on l'a vu très très peu en début d'audience. Une fois, donc, une ouverture des débats pour parler des dysfonctionnements nombreux dans cette affaire, et puis effectivement le verdict. En fait, il bouge pas. Mathieu, on lui dit qu'il est condamné à perpétuité. Bah, c'est comme si on lui dit, bah, écoute, c'est l'heure d'aller casse-croûter. Il est midi et demi, c'est l'heure de la cantine. Il y a rien qui l'atteint, Mathieu. C'est un peu, il y a aucun affect chez Mathieu. C'est un vrai souci.
Aucun affect, Maître Francis Spinner, vous étiez à l'audience et vous l'avez vu beaucoup plus longuement que, évidemment, Frédéric Perruche. Aucun affect. Comment est-ce qu'il comporte, Mathieu, à ce procès à huis clos ?
Écoutez, on avait le sentiment que tout cela l'ennuyait, mais je me souviens, moi, de la reconstitution du crime où il était à quelques mètres de la maman d'Agnès, totalement indifférent, méprisant, racontant n'importe quoi. Et c'est vrai qu'au premier procès, on avait l'impression que tout ça l'ennuyait, qu'il n'était pas totalement concerné par ce qui se passerait.
Mais tout de même, est-ce qu'il explique ses gestes, finalement ? Pourquoi a-t-il tué Agnès ?
Vous savez, la question qui est toujours posée dans ce genre de crime et de ce genre de personnalité, c'est, ça nous rassure d'essayer d'avoir une explication rationnelle du pourquoi. Et puis parfois, il n'y en a pas parce qu'il y a des gens qui sont, je l'ai dit, on me l'a reproché, du côté de la défense, mais oui, il y a des gens qui aiment le mal, qui aiment faire mal, par pur sadisme, par pure perversité. Et quand ça arrive chez quelqu'un de jeune, ça nous dépasse et ça nous désarme. Donc on voudrait avoir l'explication en disant il est fou parce que ça nous rassurerait. Mais ce garçon était vraiment inquiétant. Et pourtant, j'ai défendu, et voilà. Mais celui-là est sans doute un de ceux qui m'a le plus inquiété par cette espèce de froideur aussi jeune.
Et qui a inquiété aussi la cour et les jurés, puisque c'est un mineur condamné à la perpétuité. C'est très rare, Maître Spinner.
C'est rarissime un mineur condamné à perpétuité en France. Je crois d'ailleurs que Mathieu doit être un des rares. C'est vous dire combien le gamin était effrayant. Car au deuxième procès, il n'était pas du tout pareil qu'au premier, et il disait des choses à vos... qui faisait froid dans le dos. Quand j'ai poignardé Agnès Marin, j'ai ressenti une jouissance. Oui, c'était quelqu'un d'inquiétant. Au deuxième procès, on voyait combien il était inquiétant, et c'est pour ça que, je vous dis, perpétuité, c'est rarissime. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas dans ces 30 dernières années d'autres gamins condamnés à perpétuité.
Les avocates de Mathieu M. vont faire appel du verdict. Il y aura donc un deuxième procès. La famille d'Agnès Marin, effarée par l'absence de contrôle des autorités, va, elle, demander des comptes. Le 29 septembre 2014, un an après le premier procès, Mathieu comparaît devant la cour d'assises des mineurs du Puy de Dôme. Les audiences se tiennent à nouveau à huis clos. Au premier jour, quand le président lui demande pourquoi il a fait appel, l'accusé répond « J'accepte la perpétuité, mais je voudrais une obligation de soins ». Le 10 octobre, Mathieu M. est à nouveau condamné à la perpétuité. Ses parents sont satisfaits que le verdict soit accompagné d'une obligation de soins, une garantie que l'État veillera sur lui, s'accorde-t-il à dire. Il renonce au pourvoi en cassation. Mathieu M. sera incarcéré à la centrale d'Insisheim, en Alsace, réservée aux longues peines. La famille d'Agnès Marin, elle, va avoir bien du mal à se relever de cette épreuve. La mort d'une enfant et la certitude que ce drame aurait pu être évité. Les Marins vont alors demander des comptes, exiger notamment la radiation du psychothérapeute qui avait permis à Mathieu de retrouver une rapide liberté après le premier viol.
et ils vont également attaquer l'État. Le 24 avril 2017, l'État est ainsi condamné pour négligence fautive assimilable à une faute lourde, à savoir la remise en liberté trop rapide du meurtrier et son placement inapproprié dans un collège mixte. L'État a dû verser une indemnisation de 185 000 euros à la famille. 185 000 euros qui ne rendront pas, évidemment, Agnès à sa famille. C'est vous, Maître Spinner, qui avez fait condamner l'État. Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire prendre conscience que de cette série de manquements au grand public et jusqu'au sommet de l'État, c'est ça ?
Oui, dans cette affaire, il y a un concours de circonstances qui fait que la justice, par ses manquements, a permis le passage à l'acte. Est-ce qu'on peut laisser, par exemple, quelqu'un qui a commis un viol à nouveau dans un internat mixte avec des jeunes filles qui sont des proies potentielles? Donc il y a eu toute une série de manquements. Je rappelle même que le juge d'instruction a libéré Mathieu avant même d'avoir le rapport écrit de l'expertise, se contentant d'une conversation téléphonique avec l'expert, lui disant que ce garçon n'était pas dangereux. Donc oui, il y a eu toute une série de manquements qui ont amené la justice à condamner l'État.
C'est incroyable, cette série de... Ça laisse pantois, on peut en parler pendant des heures, mais ça laisse totalement pantois cette série d'absences et de manquements de l'État. C'est extraordinaire. Frédéric Perru, journaliste RTL, correspondant à Lyon, j'ai lu dans des articles et des déclarations d'avocats que Mathieu était évidemment emprisonné et à perpétuité. Il avait besoin que les murs soient fermés autour de lui parce qu'il avait l'impression que sinon il allait repartir à nouveau et commettre le pire.
Oui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé chez Mathieu. Il continue en tout cas de ne ressentir absolument rien pour ses victimes. Ça, c'est ses avocates qui sont toujours en contact avec lui qui le disent. Pour l'instant, le travail ne se fait pas, c'est-à-dire qu'il continue à considérer la petite Agnès et sa victime précédente, Julie, comme des choses, quoi, comme... je ne sais pas comment
dire
ça.
Objets, enfin,
comme des objets, exactement. Pour lui, ce sont des corps qui n'existaient pas. C'est assez troublant. Et de ce côté-là, il a guère évolué, mais ça, je ne voudrais pas être trop affirmatif sur cette question-là.
Il suit une thérapie, d'ailleurs, donc, qui est obligatoire. Mais bon, on verra par la suite si au fil des années, effectivement, il prendra conscience de ses actes, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs lors de ces deux procès. Maître Spinner, est-ce que la justice a tiré les leçons de l'affaire Agnès Marin? Je le rappelle, c'était il y a 10 ans.
Les leçons de l'affaire Agnès Marin, en grande partie, non. D'abord, la première leçon qui n'a pas été tirée, c'est le problème et le rôle des psychiatres dans le processus judiciaire. Et de ce point de vue, il y aurait beaucoup à dire sur parfois la médiocrité des psychiatres qui sont au service de la justice. La deuxième chose, c'est l'affaire Agnès Marin, c'est aussi un manque toujours récurrent de moyens de la justice, qui fait que ça a favorisé le crime. Ce qui a été fait en matière budgétaire, même si ces dernières années, il y a un petit effort qui est fait, c'est misérable à côté de ce que la justice a besoin.
Est-ce que, Maître Spinner, cette chaîne d'irresponsabilité dont on parle depuis une heure, est-ce que cette chaîne serait toujours possible aujourd'hui ?
Alors, l'idée qu'on puisse libérer un violeur et le mettre dans un internat mixte ouvert, je pense qu'on maintenant y réfléchirait peut-être à deux fois. En revanche, je maintiens que, en matière de contrôle judiciaire, les juges d'instruction n'ont pas à leur disposition les moyens de s'assurer de l'effectivité et de la réalité du contrôle judiciaire, du respect des obligations. Mais ça, c'est le manque de moyens et ça peut arriver effectivement demain.
Frédéric Perruche, on termine avec vous cette émission très très court en quelques mots. La famille d'Agnès vit toujours, on les a contactés d'ailleurs, ils ne souhaitent plus parler de cette histoire. On suppose qu'ils ne se sont jamais remis de ce drame.
Non, c'est pas possible. C'est impossible de se remettre d'un drame pareil. D'autant plus, on l'a dit pendant une heure, qu'il y a eu des dysfonctionnements, qu'il y a eu un juge qui a libéré très vite Mathieu, etc., etc. Et surtout, malheureusement, la décision de mettre la petite Agnès dans ce collège, ce sont les parents qui l'ont prise. Voilà, vous imaginez bien que c'est une décision qu'ils se reprocheront tout seuls, même si... voilà, c'est comme
bien
ça.
Sûr. Mais bien sûr, c'est le poids de la culpabilité, même si effectivement les parents n'y sont strictement pour rien. Merci beaucoup Frédéric Perruche, maître Francis Piner et René Pagis d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.